Salut à toi, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Samuel. On parle de la digestion, les troubles digestifs plus particulièrement. On parle de comment fonctionne la digestion en premier lieu. On passe à travers toutes les étapes, la reconnaissance enzymatique et le profil enzymatique, pourquoi on développe des troubles digestifs. Et aussi, on parle de 10 conseils pour aider à avoir une bonne digestion. Fait que gang, on écoute ça. Je tiens à spécifier une chose. On est une équipe de naturopathes. On n'est pas des diététiciens, on n'est pas des nutritionnistes. Toute la matière qu'on vous partage à l'intérieur de ces podcasts-là, c'est de la matière qu'on a appris d'expérience client et aussi qu'on a lu à l'intérieur de livres. Fait que prenez-la en compte.
All right, salut Jay. Ben écoute, bienvenue dans notre autre podcast, notre 6e podcast techniquement.
Yes.
Aujourd'hui, on va parler de la digestion, principalement aussi des troubles digestifs, comment ça se prépare, en fait, comment ça se fait. Donc, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Fait qu'en fait, je vais commencer avec l'introduction, pas nécessairement l'introduction, mais on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Au début, ce que je voulais parler, c'est comment fonctionne la digestion.
C'est quand même une étape importante à savoir.
Ben oui, puis en parlant d'étapes, justement, il y a 7 étapes. Fait, je vais être sûr de ne pas les oublier. Je les ai pris en note. Puis je pense que chaque étape est essentielle dans la digestion. Puis même, j'en dirais une 8e que souvent les gens ne connaissent pas. Et justement, on embarque directement dans le vif du sujet. Premièrement, la première étape de la digestion, c'est pas ce qu'on croit du fait d'avoir la nourriture dans notre bouche puis de mastiquer. Je dirais même avant ça, puis c'est quand on regarde un aliment. Puis souvent, je donnais l'exemple à des clients, c'est si tu aimes vraiment une pomme, t'as vraiment faim, puis je mets une belle pomme devant toi, puis genre à l'heure appétissante, ben tu vas commencer à saliver avec des enzymes digestives qui vont sécréter dans ta salive en se disant si je mange la pomme, je suis prêt. Là, okay? Fait que ça, c'est la première étape de la digestion, c'est quand tu regardes un aliment puis tu commences à saliver.
Puis si, admettons, la pomme est vraiment très très laide, est-ce que tu vas saliver autant?
J'ai l'impression que non, parce que d'après moi, ça va être
c'est plus. Donc c'est vrai que la première étape, c'est vraiment, vraiment. Le look au niveau de l'aliment.
Ben oui, parce que si tu ne pas mettre des verres dedans, je te garantis que je ne salive pas. Là. C'est ce que je pense. Mais ça, je dirais, ouais, la première étape de la digestion, c'est ça.
Okay.
La deuxième étape, ou la première, selon la plupart des personnes, c'est la mastication. Et quand on parle de mastication, c'est quand tu vas mâcher, il y a d'autres enzymes digestives qui vont être sécrétées dans ta salive. Et ben, le fait de mâcher, ce que ça fait, c'est que ça te permet de broyer, on va dire, les aliments. Par la suite, la deuxième étape, c'est que les aliments vont descendre dans ton œsophage, directement jusque dans ton estomac. Et la deuxième étape, quand on parle du passage dans l'œsophage, c'est question de faire la transition entre ta bouche et l'estomac. Et une fois que ça arrive dans l'estomac, c'est, j'appelle ça tout le temps une espèce de, c'est pas le bon terme, un blender, okay? Un espèce de mélangeur, un ninja là, que tu blendes. Et qu'est-ce qui fait que ça blende ou que ça mélange? C'est des sucres au niveau enzymatique qu'on appelle l'acide chlorhydrique, par exemple. Et l'acide chlorhydrique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très acide, ça le dit. Donc, ça va broyer les aliments pour créer une espèce de purée.
On appelle ça la chime.
Et exactement ce que j'allais dire. Okay. Si t'es venu en avance, c'est la chime alimentaire. Ça, c'est l'autre étape. Ça arrive dans l'estomac, c'est broyé à cause des enzymes pancréatiques, dont l'acide chlorhydrique. Ça crée ce qu'on appelle le chyme alimentaire, qui est l'espèce de purée, qui a l'air un peu dégueulasse, dit de même, mais c'est les aliments broyés, qui descendent par la suite jusqu'à dans ton intestin. Et une fois que ça arrive dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe? C'est là que tous les nutriments vont être dégradés. Donc, quand on parle de dégradés, c'est par exemple les protéines vont passer en acides aminés. Et là, on ne rentrera pas dans tous ces détails-là, mais les glucides vont être dégradés en glucides plus simples. Les glucides complexes vont être dégradés en glucides simples. Les protéines en acides aminés, etc. Okay? Donc, c'est à ce moment-là que les particules, qui étaient des grosses particules, ce qu'on appelle un peu le catabolisme, vont être dégradés pour créer des petites particules qui sont assimilables dans l'intestin. Et par la suite, bien, une fois que c'est assimilable, ton intestin va capter les nutriments, donc qu'on appelle les microvillosités intestinales. Ils vont capter les nutriments pour les envoyer dans ta circulation sanguine et dans la lymphe pour que tu puisses créer de l'énergie, que tu puisses rebâtir de la masse musculaire, que tu puisses réparer des tissus, bon, etc. Okay? Donc ça, c'est un peu l'ordre de l'assimilation des nutriments et comment que ça se fait. Et une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau du gros intestin? C'est là que souvent que l'eau ou slash des fois le sel, si tu manques de sel, si tu as trop de sel, de sodium, techniquement, va être réabsorbé. Et la différence que ton corps n'utilisera pas soit comme énergie, soit comme façon de construire ou de créer de l'anabolisme dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être éliminé via les sels. Okay? Fait que si on parle de digestion, là, je suis allé vraiment dans mes mots le plus possible, mais si on y va dans l'ordre, un, je dirais, bon, quand on regarde un aliment, deux, la mastication, 3, le passage dans l'œsophage des aliments. 4, l'arrivée dans l'estomac. 5, l'arrivée dans l'intestin grêle en chyme alimentaire. 6, l'absorption des nutriments dans l'intestin grêle. 7, Tout ce qui est réabsorption, si jamais tu en as trop passé dans le gros intestin. Et 8, l'élimination via les selles.
La défécation.
Ouais. Défécation, exactement.
Fait que c'est là, techniquement, que toute la matière indigeste, les fibres puis les bactéries de ton organisme que ton corps ne veut pas.
100%. Exactement. Fait que la digestion fonctionne comme ça. J'aurais pu encore vraiment détailler vraiment, vraiment plus, mais là, on veut faire des podcasts.
Chaque sphère que tu viens de nommer peut être détaillée. Comme tantôt, tu avais cité les microvellosités intestinales, mais on peut parler pendant une heure juste de
ça. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le concept de la digestion. Le deuxième principe que j'aimerais que tu embarques dedans, c'est qu'on voulait parler de la reconnaissance enzymatique. Absolument. On parlait, nous autres, des tests IgG, les hypersensibilités alimentaires, parce que tout ce qu'on va digérer, puis tantôt, je vais en parler un petit peu, passe par notre profil enzymatique. Est-ce que nos enzymes sont capables d'aller assimiler et digérer tout ça? Fait que je te laisse embarquer là-dedans, Dieu.
Absolument. Mais dans le fond, tu sais, pour comprendre la reconnaissance enzymatique, un enzyme, dans le fond, parce que souvent, on va entendre parler de exemple. Je donne un bel exemple avec les enzymes. Un produit laitier avec lactose ou sans lactose. C'est absolument le même produit laitier qui provient de la même vache qui vient dans la même cuve puis te le quitte. La seule unique différence, c'est que dans le produit sans lactose, les gens comprennent bien le mot sans lactose, mais si on disait enrichi de lactase, les gens comprendraient plus pantoute. Fait qu'on dit sans lactose, mais il y a du lactose dedans. C'est juste qu'il y a une enzyme ajoutée à l'intérieur qu'on appelle la lactase qui permet de reconnaître ça. Ce qui est intéressant en tant que tel, c'est que nous, on fait affaire avec un laboratoire externe qui s'appelle le laboratoire Canalt en Ontario. Et ce laboratoire-là, dans le fond, il nous permet de mettre en contact avec plus de 350 aliments, toutes les réactions, dans le fond, ton sang. Puis ça va nous montrer la réaction d'anticorps IgG pour chacun des aliments. Donc, on est capable, en lien avec ça, de savoir quel est ton profil d'absorption et de biodisponibilité de chacun des aliments dans ton corps. Puis, tu sais, si on regarde en tant que tel, pourquoi est-ce qu'un test IgG peut être super pratique, mais en même temps, pourquoi est-ce que c'est essentiel de savoir ça? Parce que tout ce qui rentre dans ton organisme, parce qu'on s'entend, le corps humain, c'est une belle machine. C'est vraiment un gros ordinateur et chaque chose qui rentre à l'intérieur doit être reconnue. Si ce n'est pas reconnu, ça va être éliminé, attaqué, transformé ou il va se passer quelque chose qu'il ne faudrait pas. Fait qu'en soi, ton corps a vraiment un beau système d'élimination, un beau système d'absorption, etc. Mais si, exemple, tu mâches une pomme, il va y avoir des fibres autour de la pelure. Ces fibres-là, ben, dans la pelure, en fait. Les fibres, c'est une matière indigeste que ton corps va juste gonfler le contenu, la chyme, dans le fond, comme tu parlais tantôt, et ça va sortir lors des selles. Ça va juste faciliter, en tant que tel, ce qu'on parlait tantôt, du péristaltisme. Le sucre, par contre, à l'intérieur, doit être reconnu par des enzymes. Et ces enzymes-là, c'est un peu comme un petit robot qui sert à être capable de reconnaître qu'est-ce qui vient de rentrer dans ton corps. Donc, si tu reçois une protéine, il existe des enzymes comme la protéase qui va aller se connecter avec et qui va être capable d'aller le placer aux endroits qu'il faut, soit les muscles, le système, etc. Si tu reçois, exemple, des lipides, il va recevoir un enzyme qui s'appelle l'alipase, le lactose, la lactase, l'amylase, etc. Tu as des centaines et des centaines d'enzymes à l'intérieur de ton corps qui servent à reconnaître les aliments que tu manges. Et si toi, dans une condition X, parce que tu as vécu mille et un facteurs, du stress, des antibiotiques, toutes sortes de choses, tu te retrouves dans une situation où tu produis peu ou plus d'un certain type d'enzyme, bien, il va avoir des réactions qu'on appelle des hypersensibilités alimentaires ou des intolérances alimentaires, comme on entend souvent. Fait que la reconnaissance enzymatique, c'est quoi? C'est que tout ce qui rentre dans ton corps pour être en bonne santé, pour vivre longtemps, pour avoir un corps bien vital et faire en sorte de maximiser le plus possible les cellules, la vitalisation des cellules, le transport des nutriments, des protéines, glucides, lipides et de l'eau, il faut assimiler qu'est-ce qu'on mange. Fait que si toi, tu ne produis pas d'enzyme, la lactase, et que tu rentres non-stop des produits laitiers, ton corps va devoir ou reconnaître, ce n'est pas le cas, ou attaquer ou éliminer. Donc, dans certains cas, il y a des personnes que le corps va juste essayer de flusher les produits laitiers, fait qu'il va excréter ça vers les selles molles. Puis, je vais en parler tantôt. D'autres personnes vont peut-être attaquer cette molécule-là, donc il va avoir une réaction immunitaire ou inflammatoire, et ça va peut-être causer justement un épaississement des muqueuses. Fait que les produits laitiers sont reconnus lorsqu'on a une intolérance à créer un surplus de mucus. Fait que le nez, tout le temps qu'on congestionné, on va avoir les muqueuses intestinales qui vont être plus en difficulté aussi. Fait que ça va plus glisser, fait que c'est le mollet, etc. Fait qu'il y a plein de différents petits facteurs comme ça. Nous, en nutrithérapie, quand on regarde chaque personne, on va des fois percevoir que la personne au niveau digestif, ça va considérablement bien et qu'ils ont plus besoin d'être réorientés au niveau du mode de vie, les choix alimentaires. Mais dans d'autres cas, il y a des personnes qui ont des super de beaux modes de vie, qui ont déjà expérimenté plusieurs structures alimentaires, plusieurs systèmes pour avoir un mode de vie équilibré, mais ils se retrouvent toujours avec des maux de ventre, ils se retrouvent tout le temps avec des ballonnements, des selles molles, des problématiques digestives. Et c'est là qu'on va voir les enzymes digestives. Et je vous explique une petite situation ici parce que, tu sais, le test IgG, là, on ne le verra pas sur la caméra, mais Ça nous code 300. Je peux sûrement le montrer. On est peut-être capable de zoomer à ce moment-là. Mais c'est vraiment un test, dans le fond, qu'en rouge, on va avoir les 10, 15, 20, 30 aliments où ton corps crée une réaction immunitaire, voire inflammatoire. Et je vais l'expliquer bientôt. En jaune, le corps peut venir digérer certaines de ces molécules-là parce qu'il produit un petit peu dans son profil enzymatique certaines clés. Et en vert, on parle de près de 300, 320 aliments dans le cas de cette cliente-là. C'est des aliments qu'elle peut consommer à volonté parce que peu importe la quantité, son corps va toujours être capable de produire les enzymes.
Je veux dire de quoi d'important, en fait. Je vais comme te poser la question, je vais te laisser répondre. Quand on parle d'un test IgG, qu'on l'a utilisé souvent avec des clients, moi, habituellement, puis tu me diras ton take face à ça, moi, habituellement, ce que je dis, c'est le test IgG n'est jamais nécessairement obligatoire. Ouais. Le test IgG est super intéressant dans des cas de problématiques digestives.
Absolument.
On s'entend avec quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « je fais le super bien, je veux savoir une stratégie », c'est pas nécessairement un test que moi, je dois prendre ce test-là.
C'est du spécifique.
Ben, exactement, c'est très spécifique. Ouais. Est-ce que c'est obligatoire à prendre? Ben non, pas tout. Est-ce que ça peut aider énormément? J'aimerais savoir ton take là-dessus. Moi, je pense que oui.
Absolument. Puis tu sais, si tu regardes en tant que tel, j'ai deux clients. Une cliente et son conjoint qui est venu me voir. Puis tu sais, la cliente, en premier lieu, c'est elle qui a décidé. Puis après ça, elle a décidé d'introduire son conjoint à ce mode de vie-là qu'on prône. Fait que là, elle a commencé à avoir moins de réactions inflammatoires, elle avait moins de douleurs, elle avait beaucoup de douleurs, beaucoup de carences, dévitalisation, mauvaise hydratation intracellulaire. Bref, il y avait plein de petits aspects à changer. Puis, elle se plaignait tout le temps de maux digestifs, mais elle avait beaucoup de réactions inflammatoires. Puis, de douleurs chroniques, etc. Puis, un moment donné, son conjoint, lui, il est tout le temps en crise d'allergie, il est tout le temps congestionné. Puis, tu sais, lui, il a toujours, depuis le début de sa vie, mis ça dessus la faute des allergies. Ah, c'est l'allergie du foin. Allergie du foin l'hiver, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a décidé d'offrir à sa conjointe. En fait, quand il est venu me voir en deuxième, il a décidé de s'offrir le test IgG juste par curiosité. Fait que là, quand il a eu son test, pas beaucoup d'aliments. Trois aliments en rouge qui ont codé. Mais il y en avait un, c'était les produits laitiers. En fait, tous les types de produits laitiers et la caséine, la protéine du lait. Ça veut dire que même s'il enlève le lactose des produits laitiers, il est intolérant en tant que tel. Sauf que ce qui est intéressant dans le test IgG, c'est que tout ce qui va être au-dessus de 50 de réaction, puis on voit des chiffres, entre 160 et 50, entre 160 et 0, puis tout ce qui est au-dessus de 50, on peut considérer ça comme étant une réaction immunitaire. Ça veut dire que le corps produit tellement peu d'enzymes que dans certains cas de certaines molécules, il va venir attaquer la molécule. Fait que si, exemple, on va voir une personne qui est à 36 ou 35, comme dans le cas de ma cliente ici, j'ai un profil en face de moi, elle est à 35 au niveau de la levure de bière. Ça se peut qu'elle consomme une bière, ça n'a pas de problématique. Si elle en consomme deux, elle sature son profil enzymatique et elle n'absorbera pas la bière. Donc, ça va venir à créer peut-être une réaction inflammatoire ou une réaction d'élimination ou quoi que ce soit. Je vous explique un peu la situation du profil que j'ai ici, puis après ça, je vais en revenir avec mon autre client. C'est que j'ai un test d'intolérance ici d'un client, dans le fond, qui avait un gros côlon irritable. Puis on va en parler aussi, mais tu sais, le but aujourd'hui n'est pas nécessairement de parler des troubles digestifs. On va en glisser quelques mots, mais on va faire un sujet spécifique à ça. Mais ce client-là, dans le fond, là, je t'explique un peu. Il était âgé de 18 ans, 6,5% de gras, 6 pieds 1, 142 livres. Fais le calcul.
T'es
très, très, très long et très, très, très mince. Puis, tu sais, 6% de gras, on y voyait la cage thoracique, on voyait le cœur battre à travers, tellement qu'il était mince. Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il était à 91% de masse musculaire et squelettique. Les tendons, les muscles étaient dévitalisés complètement. Il est 9% de moins que ce que génétiquement, il devrait être. Fait que la personne est en catabolisme musculaire complet. Et cette personne-là, ce qui était très intéressant, dévitalisation, manque d'énergie. Puis, quand il est venu me voir, en fait, c'est sa mère qui l'a amené. Parce qu'elle avait entendu parler justement du test d'intolérance, et etc. Puis on a passé à travers des méthodes spécifiques pour refaire sa digestion. Mais il n'allait plus à l'école, il a lâché l'école. Il y avait tellement de diarrhées et il y avait tellement de problématiques digestives qu'il allait aux toilettes entre 10 et 15 fois par jour. C'était handicapant. Écoute, littéralement, pendant notre première rencontre, je me souviens, il était un, timide parce qu'il n'y a plus d'estime de lui, veut pas, il n'y avait plus. Puis deux, il passait son temps à courir aux toilettes. En une rencontre de 2h30 avec moi, il est allé deux fois à course. Puis c'était là. Sinon, c'était à terre.
J'entends que c'est les selles aussi. Là.
C'est ça.
Préciser, c'est pas l'urine.
C'est pas. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, j'avais pas précisé.
Quand on parle d'hypersensibilité alimentaire, beaucoup d'hypersensibilité alimentaire se développe en raison d'une mauvaise nutrition.
Absolument.
Okay? Fait que, tu sais, si tu manges juste de la scrap, des produits transformés, on parlait l'autre fois de panneur puis de friture, ouais. Tu bois pas assez d'eau, donc ton intestin, il est vraiment, vraiment pas bien lubrifié, on va dire. Tu dors comme de la scrap, tu crées une résistance à l'insuline. Toutes ces affaires-là vont faire en sorte que tu risques d'avoir plus d'hypersensibilité alimentaire.
Absolument.
Le concept des IgG, c'est de dire pendant un certain temps, puis si je ne me trompe pas, ça dit 3-4 mois dans le meilleur des mondes, d'essayer de retirer ces aliments-là pour faire en sorte qu'après ça, tu peux peut-être les réintroduire graduellement pour voir comment ton profil s'est rebassé.
Absolument. Fait que, tu sais, ce client-là, pour en revenir au sujet, mais absolument. Tu sais, il y a tellement de méthodes à utiliser avec ça. Nous, on est capable de créer des pistes de solutions après ça en voyant le profil enzymatique. Mais tu sais, ce client-là, dans le fond, c'est son profil. Puis on peut voir que chaque matin, il se réveillait, il se prenait en général un café, il avait découvert le goût du café, il se mettait deux laits, deux sucres, il se prenait après ça deux œufs, il se prenait après ça un yogourt, Danone. Puis dans sa journée, ça ressemblait à ça parce que le restant du temps, après ça, il était incapable de manger. Fait qu'il déjeunait, puis il se scrapait la digestion parce que, regarde bien les espèces.
Il était incapable de manger parce qu'il n'avait pas faim ou il était incapable parce que s'il mangeait à la salle?
Parce qu'il n'avait pas faim, puis parce qu'il était juste incapable de manger. Il était tout le temps aux toilettes, puis à chaque fois qu'il mangeait, ça sortait.
C'est ça, il avait comme peur. Il avait peur de manger, mais il avait peur parce qu'il
le mot peur était très bien placé dans son cas, ouais, parce que oui, il était rendu qu'il avait peur. Tu sais, ça faisait un an et demi, deux ans qu'il vivait ça. Il est extrêmement réactif. On parle de 4 molécules qui est en haut du sang. Au niveau des produits laitiers et la caséine aussi, qui est la réaction au lait, à protéines du lait. Il va avoir tout le blé et le gluten. Il va avoir le café. Il va avoir l'ensemble de toutes les noix. Puis il y a les œufs. Fait qu'il y a beau déjeuner des œufs, il y a beau déjeuner du pain, il y a beau déjeuner n'importe quoi. Tant et aussi longtemps qu'il y a des produits laitiers, du peu importe quoi, il était scrap. Fait que son système digestif, il avait tellement été inflammé à force d'avoir des molécules qui ne devaient pas être dedans.
Exactement.
Qui est en colon irritable. Un dernier petit point, le top 3 des hypersensibilités alimentaires qu'on va retrouver. En général, c'est par là que je commence parce qu'on ne fait pas en sorte que tout le monde ait à faire le test d'intolérance. On parle de peut-être 1% de notre clientèle. Là. Il y a encore peut-être un gros max 1 à 2%. Mais en général, dans nos structures alimentaires et dans l'écosystème qu'on bâtit pour nos clients, le lactose est à peu près éliminé à 99% du temps. Fait que tu sais, le but premier, c'est de faire en sorte que cette intolérance-là, parce qu'on parle, selon Santé Canada, de près de 80% de la population qui ne produisent pas l'enzyme la lactase. Ça veut dire un piètre 20% de la population qui est capable de digérer les produits laitiers.
J'allais juste dire, tu sais, tantôt tu parlais de la caséine. Pour les besoins de la cause, pour savoir, le lactose, c'est le sucre des produits laitiers. La caséine, c'est la protéine des produits laitiers. Fait qu'il y a une différence entre la caséine et le lactose. Donc, comme tu disais, tu peux être intolérant au lactose, tu vas te prendre un produit sans lactose, oups, tu ne digères pas bien quand même. Ça se peut que tu aies une hypersensibilité à la caséine, qui est la protéine des produits laitiers.
Exactement.
Fait que des fois, c'est pour ça qu'on ne dit pas nécessairement juste prends-toi du sans lactose. Dans beaucoup de cas, ça fonctionne parce qu'il y en a qui digèrent bien la caséine, mais dans d'autres cas, c'est pas nécessairement de dire coupe. En fait, ce que c'est de dire coupe les produits laitiers en général parce que tu vas éliminer lactose et caséine.
Absolument. Fait qu'en général, si vous enlevez le lactose de vos produits, vous devriez être capable de l'absorber. Puis tu sais, le 80% de la population, c'est parce qu'on n'est pas conçu pour prendre des produits laitiers. Et si on regarde en tant que tel les effets, parce que ça, c'est des affaires que moi, à force d'avoir, je veux pas mon background avec mes clients, mon expérience client puis terrain, je commence à vraiment me rendre compte de toutes les hypersensibilités alimentaires et des réactions que ça va avoir sur le corps. Quand on parle d'une réaction immunitaire ou inflammatoire des produits laitiers, une personne qui est intolérante solide, pour en venir à mon client de tantôt qui est venu avec sa conjointe, c'est qu'il se plaignait tout le temps de congestion au niveau du nez puis d'allergie. Il a coupé les produits laitiers, le gars a commencé à perdre du poids, il se sent dégonflé du ventre, mais surtout, puis aucune crise d'allergie. C'est capotant, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que le produit laitier est reconnu, lorsqu'on a un manque enzymatique, d'épaissir les muqueuses. Donc, dans le nez, tu as toutes sortes de mucus. Dans l'intestin, autour des microvellosités, tu as un mucus qui permet d'absorber. Mais ce mucus-là, s'il devient plus épais, en général, l'absorption se fait moins bien. Donc, ce que tu manges reste liquide et ça sort plus rapidement. La deuxième hypersensibilité alimentaire la plus fréquente, c'est les œufs. Et là, je tiens à spécifier. Les œufs entiers sont un des meilleurs aliments selon moi, selon mon expérience, selon ce que j'ai pu voir et expérimenter. Un des meilleurs aliments, c'est un super aliment. Il y a tellement de belles choses. Il y a de l'acétylcholine, il y a toutes sortes de... Vraiment, c'est wow. Ça donne la vie, littéralement. Mais les œufs séparés, ça veut dire que si tu sépares le blanc d'œuf et que tu prends seulement du blanc d'œuf, ce qui est rendu super populaire, le blanc d'œuf code très régulièrement dans les tests d'hypersensibilité alimentaire. Mais le jaune d'œuf, pratiquement jamais. Je pense que j'en ai vu 2 ou 3 dans ma pratique. Fait que, tu sais, lorsqu'on sépare le blanc d'œuf du jaune d'œuf, il y a des agents actifs qui permettent de digérer le blanc d'œuf à l'intérieur du jaune d'œuf et vice-versa. Ça veut dire que si tu le sépares, tu perds certains agents actifs, probablement des enzymes, quoi que ce soit, dans le jaune d'œuf, qui permet d'aller reconnaître le blanc d'œuf. Et qu'est-ce qui va se passer comme réaction au niveau du blanc d'œuf lorsqu'on en consomme trop? Exemple, si tu fais une omelette chaque matin, 2 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs. Souvent, les blancs d'œufs sont associés au ballonnement, à un point spécifique au niveau de la douleur. Tu sais, un bon gros point dans le ventre, une crampe ou quoi que ce soit. Et le troisième, c'est le gluten, le bon vieux gluten que beaucoup de personnes ont décidé de juste couper. On s'entend, si techniquement, tu es allergique au gluten et que tu es considéré comme étant cœliaque, coupe le gluten. Le gluten, 5 à 10 % de la population serait intolérant au gluten. En général, ça tend plus vers le 5 %. Les gens le démonisent beaucoup. Le problème, c'est que la souche de gluten qu'on a actuellement sur la Terre est vraiment de très mauvaise qualité. On est rendu avec des... En fait, on est rendu à plusieurs générations d'OGM. Fait que le grain de blé de l'ancien temps n'a plus rien à voir. Et on s'entend, si tu manges un pain de blé entier concassé, biologique, que genre, littéralement, le blé se fait flatter à chaque jour, tu n'auras pas de problème digestif. Mais si tu prends du pain pomme avec un blé qui n'a plus de traces de blé là-dedans, blanchi, mélangé avec plein d'affaires, entreposé depuis 8 mois avec 12 agents de conservation, ça se peut que tu aies une problématique de digestion. Fait que c'est réussir à prendre en compte aussi ça. Mais le gluten, en général, eau et farine. Quand tu mets ça ensemble, qu'est-ce que ça fait? La colle. Ça se peut qu'une seule molécule, ta petite tranche de pain chaque matin, va venir faire une boule de colle dans ton intestin, va peut-être créer des bouchons ou quoi que ce soit. Fait que c'était ça en tant que tel. Le profil enzymatique, c'est super intéressant. Puis, tu sais, on peut aller loin là-dedans, mais lorsque les personnes ont des douleurs au ventre ou qu'ils veulent comprendre leur profil, il faut comprendre que chaque chose qui rentre dans votre corps doit être reconnue par un enzyme.
C'est ce qu'on dit tout le temps, Dieu, c'est ce qui est important, c'est pas ce qu'on mange, c'est ce qu'on assimile.
Absolument.
Et l'assimilation, c'est, tu sais, dans le fond, là, au niveau de notre bilan de santé, quand on fait des bilans avec nos clients, ça me fait rire parce que à chaque fois que j'arrive sur la question, ce soit plus avec les gars partent arrivent, les femmes sont un peu gênées, c'est comment sont tes selles? Combien de fois tu vas à la selle par jour? Ils ressemblent à quoi? Sont-tu molles? Sont-tu dures?
Sont belles, je vais 4 fois par jour, puis sont.
Non, mais les femmes, souvent, c'est comme, ah ouais, je m'attendais pas à parler de mon caca aujourd'hui, puis là, c'est comme l'affaire, c'est que cette question-là, là, c'est vraiment la question la plus importante de tout le bilan de santé. C'est ça qui a l'air la plus niaiseuse, mais c'est la plus importante. Parce que si tu vas toujours à la selle molle, c'est parce que tu n'as aucune assimilation. Si tu vas à la selle une fois ou 4 jours, c'est parce que tu fais de la constipation puis c'est pogné dans ton intestin.
C'est con à dire, mais dis-moi comment sont tes selles et je vais être capable de dire ton énergie.
Ouais, ça sauve l'assimilation directe avec l'énergie.
C'est ça, parce que tu absorbes les nutriments. Fait qu'une personne comme mon client qui, littéralement, 6 pieds 1, 140 livres, 91% de masse musculaire, il va aux toilettes dès l'instant qu'il mange quelque chose, il sort. Ça veut dire qu'en termes d'absorption, il n'y a rien qui passe. Là, parce que le produit laitier a littéralement épaissi les muqueuses. Fait que dès qu'il mangeait une petite croquette, qu'il mangeait une toast, qu'il mangeait quoi que ce soit, ça glissait en bas direct. Fait qu'au final, dans sa journée, il a bien beau pas avoir d'estime, pas de force, pas d'énergie, pas de rien. C'est normal, il y a 10 % peut-être qui absorbe dedans tout. Fait qu'il n'y a pas de potentiel énergétique là à avoir. Là. Puis quand tu regardes son eau intracellulaire sur l'inbody qu'on a ici, ben probablement qu'il était ultra méga, c'était dans le temps qu'on n'avait pas encore l'inbody, mais si on regarde, mettons, il est complètement dévitalisé, il est probablement énormément déshydraté, genre on parle d'un 41%, 42% d'eau intracellulaire, d'eau tout court, c'est incroyable.
Tu sais, tantôt, je parlais justement de l'intestin grêle, c'est là que tu assimiles les nutriments. Ouais. Mais comme tu dis, si en partant, il y a quelqu'un qui vient nous voir puis qu'il y a des selles 6 fois par jour puis les selles sont molles, ou justement, il y a de la constipation, ça veut dire que l'assimilation des villosités au niveau intestinal, ça se fait pas bien. Donc, puis qu'est-ce qui se passe quand tu l'assimiles? Ben ça s'en va dans ton sang et dans ta lymphe pour créer l'énergie, pour tout faire qu'est-ce que tes cellules ont besoin pour créer de l'ATP au niveau cellulaire.
Absolument.
Fait que si tu n'es pas capable de rentrer cette énergie-là, tu n'as pas d'énergie. Fait que les selles sont directement reliées avec l'énergie, 100%. Puis moi, j'ai une cliente, justement, là, je l'ai rencontrée à matin. J'avais son premier suivi après un mois. Puis avant de venir me voir, c'est combien qu'elle mangeait deux fois par jour? Je ne sais pas, je sais plus exactement c'était quoi la carte. Non, une fois.
Une fois.
Elle ne déjeunait pas, elle ne dînait pas, elle soupait. Fait que, puis tu sais, souper, ça devait être genre un assiette de spaghettis avec des tomates. Là. Mm. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est qu'elle mangeait rien. Elle devait manger peut-être, on va dire, je sais pas, 600 calories par jour. Elle a plein de problématiques, c'est normal. Mais, outre ça, comment tu veux qu'elle aille à la selle 4 fois par jour? Elle y allait une fois 3 jours. J'étais comme, c'est normal, t'es pas en constipation, c'est que tu manges absolument rien.
C'est que tu manges versus, le un quart de ce que tu devrais manger par jour.
Ben, c'est ça. Puis, versus, tu prends, tu dis, s'il va plus que 3 fois, je prends l'exemple, mettons, je donne souvent l'exemple de Michael Phelps. Là, je donnais l'exemple qu'il mangeait 11-12 000 calories.
Doit y aller 4-5 fois par jour.
Oui, c'est sûr qu'il va plus que 3 fois.
Sort de piscine,
il mange 12 000 calories par jour. Fait que, tu sais, ça dépend de ce que tu vas manger aussi. Je pense que c'est très important de le dire.
Sinon, il faut qu'il y ait un bon système de fil dans la piscine.
Ouais, c'est ça.
Un très bon point, tant qu'à être dans le profil, puis écoute, au PDP, on refait un autre podcast sur le sujet.
Alors, okay, on
mais à un point, puis je te pose une bonne question. Tu m'as peut-être déjà entendu dans mon bureau, mais ça, souvent, là, mes clients sont sidérés quand je leur dis ça. Est-ce que tu sais, parce que...
Tu m'intrigues.
Hein?
Tu m'intrigues.
Ah, je t'intrigue, hein? Oh, je te pose la question. Est-ce que tu sais comment un sumo devient un sumo?
En mangeant fucking plus. Ah non, ouais, je sais ce que tu veux dire.
Tu le sais, hein?
Ouais, c'est qu'il est beau, genre... Ben, en fait, comme Matt Stoney. C'est genre, qui, Matt Stoney?
Ouais, carrément.
Comment il fait pour manger des quantités faramineuses de genre de bouffe en un délai très, très simple? Il me semble, si je ne me trompe pas, il boit... Ben lui, c'est ce qu'il avait expliqué à mon entrevue.
Il boit son estomac.
Il boit énorme. En fait, il ne mange rien pendant peut-être 24-48 heures. Il boit énormément d'eau pour faire grossir son estomac énormément. Mm. Après ça, il va pisser non-stop. Puis après ça, son estomac est tellement gros. Et là, il dégobe tout, genre. Fait qu'il y a comme une espèce de délai. Là. Je sais pas à quel point c'est scientifique ce qu'il explique.
Je t'explique mais comment un sumo devient un sumo. Un sumo, là, si on regarde en tant que tel, c'est les hommes forts du Japon. C'est le sport national là-bas. C'est tout que des athlètes, un sumo. Puis quand on regarde comment un sumo fait pour devenir l'opposé d'un homme fort, parce que les sumos sont ultra disciplinés, ils ont un très bon cardio, ils font, tu sais, ils ont l'air d'être des grosses boules de gras de 450 livres. Nous autres, nos hommes forts ici, c'est des gros muscle mass de 6 pieds 4 à 320 livres. Là. Mais l'un travaille pour le muscle et l'autre travaille pour le gras. Parce que la job d'un sumo, c'est de ne pas être capable de se faire déplacer du cercle. Mmh. Fait qu'ils doivent être le plus...
C'est comme quand tu regardes, mettons, des O-line au football.
Là. Carrément. Ils veulent être le plus massif et le plus gros possible. Mais, oui. Mais le O-line veut quand même la base de muscle. Le sumo veut être gras. Et comment un sumo fait pour devenir un sumo? Check bien ça. Ils se réveillent le matin en général puis ils ont une super de belle hygiène de vie. Ils vont se prendre leur petit thé vert très populaire au Japon. Après ça, ils vont aller faire leur séance d'entraînement. Ils vont travailler leur mobilité. Ils vont faire leur cardio. Ils vont faire leur musculation à jeun le matin. Et dès qu'ils reviennent à la maison, ils vont se prendre une grosse chaudière. Puis ça, là, c'est vraiment reconnu dans le domaine des sumo. Ils vont se prendre une gigantesque chaudière. Ils vont se mettre une bouteille d'huile au grand complet à l'intérieur de ça. On parle de peut-être un 6000 calories. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se mettre un gros bouillon de poulet, un bouillon de poisson. Ils vont se mettre une darme de poisson, des bok choy, des pâtes de riz, toutes sortes d'aliments à l'intérieur de ça. Puis ils se font une gigantesque soupe contenant à peu près 10 000, 12 000 calories. Puis... c'est intéressant parce que ça en vient directement avec le sujet du profil enzymatique. L'homme fort va manger ses nutriments tout au long de sa journée en 6, 7 et 8 repas pour maximiser l'absorption. Le sumo va manger toutes ses calories en un seul repas pour maximiser le manque d'absorption. Ça veut dire que le sumo va prendre, il va passer 2 heures, 3 heures devant TV, devant son journal, devant ses affaires, mais il va dégommer la soupe de 10 000 calories « one shot ». Et ensuite de ça, le restant de la journée, il est en jeûne. Mais son corps va peut-être absorber un 3000, 4000, 5000 calories, gros maximum par rapport à sa masse musculaire, son métabolisme. Mais l'autre 4000, 5000 calories, le profil enzymatique a été saturé. Il ne peut plus digérer autant de protéines.
Il doit avoir des sels dégueulasses.
C'est
fou. Je te garantis que ce n'est pas en santé. Là,
c'est
parce
sûr.
Que les marqueurs d'inflammation doivent être dans le roof.
C'est sûr. Mais leur job, c'est d'être le plus gras possible en essayant de maximiser le plus possible leur santé. Fait que c'est comme ça qu'ils font ça. Parce qu'ils ont saturé leur profil enzymatique. Ils ne peuvent plus digérer autant de protéines. Ils sont capables de digérer, on va dire, un maximum de 300 g de protéines, de 600 g de glucides, puis de, exemple, 80 ou 100 g de lipides. On parle d'à peu près 5000 calories. Puis là, one shot, ils en rentrent 10 000. Fait que le restant des protéines, ils ne peuvent plus les assimiler. Ils n'ont plus de petites clés. Mm. Fait qu'ils se retrouvent dans une situation où le corps a tendance à les stocker ou éliminer, mais ils vont accélérer le stockage des graisses. C'est comme ça qu'un sumo devient un sumo.
C'est affreux.
C'est intéressant. Hein?
C'est intéressant, mais c'est affreux.
Fait que quand je dis ça à mes clients, comment qu'on fait pour devenir super obèse? Mange un repas par jour. Mange un repas par jour. Puis tu sais, oui, il y a le jeûne intermittent. On va faire un podcast là-dessus. Il y a plein de bienfaits à ça. Mais tu sais, mange un repas par jour saturé en calories.
Mais en fait, c'est ça. Mais oui, mais au bout de la ligne, c'est toujours les calories.
C'est toujours une question de calories. Mais eux autres, dans leur cas, ils seraient pas capables de manger 10 000 calories one shot en l'absorbant. Fait que c'est ça.
Tu sais, moi, je donne tout le temps l'exemple des quand on parle de calories, mettons qu'on met. Je veux dire 3000 calories dans une alimentation, puis que tu manges déjeuner, dîner, souper, 1000 calories, 1000 calories, 1000 calories. Même ou tu manges déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, 500, 500, 500, bon, etc. Les deux, ça donne 3000 calories. Ouais. Les résultats vont être sensiblement pareils.
La seule différence.
Versus si tu as un repas, que tu manges 3000 calories, ben là, il y a comme une limite que ce que ton profil enzymatique est capable de faire. Mais tu sais, l'affaire, c'est si tu regardes leur sel, je suis pas mal sûr qu'ils ne te gèrent pas si bien que ça. Ah, en fait, c'est sûr qu'ils ne te gèrent pas bien, ils n'ont aucune chance. Là.
C'est sûr.
Tony disait que justement, dans ses compétitions, des fois, compétition, c'est tellement cave, là, mais il mangeait genre énormément, puis tu sais, c'est dangereux, en fait. Puis c'est tellement huge qu'il mangeait, il aurait pu tellement avoir des problématiques que juste après, il ne montre pas ça à la caméra, il va se faire vomir.
Ah, il a pas le choix.
Il élimine tout de suite ce qu'il a mangé.
Pas le choix, parce que tu sais, on parle de genre manger 95 ou 120 hot dogs, là, de quoi de même. Là,
ah, genre 15 minutes.
En 15 minutes.
C'est ça l'affaire.
C'est fou, c'est or. Ouais. Fait que, je pense que ça passe au travers le profil enzymatique. Fait que, tu sais, guys, tout le monde qui écoute le podcast live, on fait chez Phoenix des tests d'hypersensibilité alimentaire. Fait que c'est super simple, c'est vraiment rapide, c'est pas si dispendieux que ça, c'est pas des tests à des milliers de dollars, puis c'est des affaires qui vont vous suivre pendant au minimum les 10 à 20 prochaines années, à moins qu'il se passe vraiment des événements dans votre vie. Souvent, c'est si on fait des gros cycles d'antibiotiques récurrents, si on vit des grosses émotions, des gros chocs comme des décès, des choses de même, ou tout simplement, c'est exemple, on fait des gros excès alimentaires, on binge eat, on fait de la boulimie, on binge eat. Ça, c'est vraiment pour aller affecter au niveau du profil enzymatique. enzymatique. Mais en général, on ne devrait pas. Puis il y a certaines médications aussi qui peuvent aller affecter ça quand même considérablement.
Je pense que tu fais la transition parce que justement, les quatre points que tu viens de dire font partie des 10.
C'est vrai?
Ben, en fait, c'est les points qu'on s'enligne. Okay. Parce que le prochain sujet, c'est pourquoi on développe des troubles digestifs. On peut faire des liens sur l'hypersensibilité. Mais même, mettons qu'on met les hypersensibilités de côté, ou ben, en fait, je pense que ça vient avec. Mais de façon générale, pourquoi on développe des troubles digestifs? Puis comment on a décidé de classer ça? C'est qu'on avait comme sorti plein. Puis on s'est dit, regarde, on va essayer de sortir le top 10 parce qu'il peut en avoir d'autres. Il y en a qu'on pourrait décortiquer beaucoup plus que ça.
Oh, on va refaire
un
sujet là-dessus.
On a sorti un top 10 de c'est quoi les raisons principales pour lesquelles on développe des troubles digestifs.
Absolument.
Je vais en dire 5, Jay va pouvoir en dire 5 et à la fin, on va pouvoir déterminer c'est quoi maintenant les façons d'améliorer ou du moins la digestion. Puis on a sorti encore une fois 5 points chacun pour ça. Okay? Okay. Fait que pourquoi on développe des troubles digestifs? Premièrement, juste avant de décoller là-dessus, je pense que c'est logique que tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui comprenne le concept là-dessus. Mais tu sais, la raison, là, je généralise vraiment, là, genre je concis le podcast, mais la raison pour laquelle on développe des troubles digestifs, c'est le mauvais mode de vie. Et quand je dis mauvais de mode de vie, c'est justement ça qu'on va décortiquer. Le sucre, les aliments transformés, manque de sommeil, le stress qui est dans le tapis, les émotions, les médicaments, il y a plein d'affaires. Fait qu'on va essayer de les décortiquer une par une, en essayant de déterminer chacun pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Okay? Fait que premier, ben justement, je viens d'en parler un peu, mais trop de sucre, de gras, de produits transformés. Évidemment, l'alimentation transformée. Puis à un moment donné, je pense qu'on avait parlé dans un podcast de ça, Jay, mais c'est que si tu as le choix entre une poitrine de poulet puis qu'il y a l'ingrédient poulet ou une pomme, que l'ingrédient c'est pomme, versus un produit qui a à peu près 72 ingrédients dedans, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas mal digérer le produit qui en a 72.
Ouais, plus de choses.
Tu vas le digérer beaucoup moins bien que lui qui en a juste un. Fait qu'on parle de profil enzymatique, on parle de plein de choses par rapport à ça.
Ah, je me souviens, j'avais
plus
donné
que l'exemple. Cochonnerie dans ton alimentation, plus que ça peut créer d'inflammation, plus que ça peut créer de troubles digestifs. Un excès de sucre va créer un excès d'inflammation dans l'intestin. Les gras trans, les produits transformés, etc.
Juste le sucralose, guys. Littéralement, tantôt, tu citais la poitrine de poulet où j'avais cité la barre protéinée. T'sais, la barre protéinée, tu as 40 ingrédients, tu as deux faux sucres à l'intérieur. T'sais, le monde sont comme ça, donne-tu des problèmes digestifs, teste-le par toi-même, tu vas le voir. Mais tu veux être en santé, mange des aliments sains et santé et lâche les produits chimiques. Là, on parle du sucralose ou de l'aspartame. L'aspartame, je peux comprendre que ça va te prendre 8 à 10 canettes pour réussir à atteindre ton quota qui peut considérablement être dangereux. Mais mange ça à chaque jour. Une liqueur qui va contenir, je ne sais pas, X nombre de milligrammes. Chaque jour pour les 365 jours de l'année pour le restant de ta vie. Je ne sais pas moi si j'ai envie de tester à dose maximale, mais je sais que ça ne va pas être nécessairement bon pour mon corps puis que mon corps va tout le temps être en contact avec un aliment, un produit chimique très cancérigène, qui ne veut pas. Mais on fait pas l'effet compound quand tu rajoutes la tartrazine, que tu rajoutes les colorants, que tu rajoutes le sucre à 400%, que tu rajoutes... J'ai aucune idée de comment ces études-là ont été standardisées ou ont été conçues. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un produit chimique, ça ne devrait jamais nécessairement être très bon pour la santé. Le but premier, c'est si tu travailles ta santé, évite les produits chimiques. Ça a bien beau être testé par des docteurs. Ah, il y a 5 ans, ils ont sorti une étude. Ça fait 15 ans qu'il est sur le marché. Ça fait 20 ans qu'il est sur le marché. Dans 50 ans, on va peut-être avoir encore le pouls comme l'aspartame. Puis peut-être bien que ça va être le stevia qui va être un des aliments les plus neurodégénératifs. On n'en a aucune idée.
Fait que non, c'est ça. Les produits transformés, bien évidemment, ça peut clairement ne pas aider la digestion. Deuxième point, les fibres. En fait, pas assez de fibres. Puis d'ailleurs, les conseils après sont beaucoup reliés avec ça. Mais le fait de ne pas manger assez de fibres, puis même, je dirais, des fois, de trop en manger pour causer ça. Je vais le parler plus dans le deuxième point après quand j'explique les conseils pour aider la digestion. Mais clairement, pas manger assez de fibres, ça peut être très nuisible au niveau de l'intestin. Je vais expliquer tantôt pourquoi. OK? Troisième point, trop de stress. Ah. Et quand on parle de stress, j'ai sorti le point du concept du fight or flight. Okay? Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, quand on parle fight or flight, c'est le fait que quand tu arrives devant une situation qui est stressante, le fight, c'est soit que tu te bats, on va dire, avec la situation ou avec l'événement ou avec la chose. Puis le flight, c'est tu fuis. Puis dans le fond, notre corps ne fait pas la différence entre, on avait parlé dans un podcast de ça, mais entre t'es face à face avec un ours puis entre t'es stressé pour un examen. Lui, c'est un fight or flight, peu importe quoi. Puis plus que t'es stressé, plus que tu crées ce concept-là, plus que ton intestin va créer de l'inflammation. Puis on a déjà entendu parler, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de ça, que notre intestin, c'est notre cerveau émotionnel.
Oui.
Fait que toutes les émotions, je sais que tu as parlé tantôt des émotions, mais je ne veux pas trop embarquer, mais le stress va jouer énormément sur la digestion. Puis combien de fois que vous avez été stressé à un certain moment, puis qu'avant l'événement, vous allez à la salle genre 4-5 fois.
C'est fou.
Puis vous allez à la salle en style diarrhée.
Tu sais, on va en parler tantôt des émotions, mais j'avais lu un livre un année sur le microbiote, puis dans le livre, il expliquait, je pense que c'était le docteur Summerall, ou bien quoi de même, Summerhalder. Il expliquait dans le fond, dans son livre, que dans le ventre, dans le fond, pendant la gestation, puis dans le ventre, la mère, va, en fait, le fœtus dans le ventre de la mère, je vais-tu le dire? le bébé, il y a des cellules nerveuses qui se séparent lors de la création du cerveau et qui s'en vont dans le système digestif, qu'on appelle le système nerveux entérique. Mmh. Et dans le fond, les docteurs, je pense que c'est en 2012 qu'ils ont découvert qu'il y avait un système nerveux, une intelligence dans l'intestin. Et là, on englobe une nouvelle science que les gens, ben, que les scientifiques n'ont pas encore découvert à 1 000 000% et qu'ils ne maîtrisent pas encore aussi bien. C'est le pouvoir du microbiote et le pouvoir de toutes les petites bactéries à l'intérieur de notre ventre. Mais il y a une intelligence à l'intérieur de ça. Et ce qui serait intéressant, c'est les émotions sont interreliées directement avec ce système nerveux-là. Mmh. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certains neurotransmetteurs, je ne veux pas me tromper parce que je ne les connais pas, dopamine, sérotonine ou endorphine ou je ne sais pas, mais il y en a qui sont sécrétés dans l'intestin directement. Donc, dès l'instant où on va vivre, exemple, un moment de tristesse ou...
La sérotonine est directement sécrétée dans l'intestin.
Bon, tu viens de répondre à ma question. Ouais. Fait que la sérotonine est directement sécrétée dans l'intestin. Fait que, tu sais, ça, veux pas, c'est un neurotransmetteur. Et un neurotransmetteur, c'est un communicateur par rapport à tes émotions.
Ouais. D'ailleurs, t'as-tu vu, c'est pour ça que moi, quand des personnes viennent me voir, puis en passant, si je me trompe pas, c'est un acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qui est précurseur de la sérotonine, qui directement va partir de l'intestin, une partie. Puis quand des personnes viennent me voir qui ont des problématiques digestives, des fois, je leur dis juste le fait de gérer le stress, gérer les émotions, va pouvoir aider au nouveau ta digestion.
Absolument.
Et vice-versa, dans le sens que si tu digères beaucoup mieux, il y a des grosses chances qu'au niveau sérotonine, ça soit mieux sécrété, donc que tu fais le mieux au niveau anxiété, au niveau de l'énergie, etc.
Ben, j'ai une cliente, fait que je pense littéralement, j'ai un bel exemple en bas là d'une cliente. Je te laisse finir tes points, puis après ça, je vais en revenir à ce que tu viens de dire là les émotions.
Ben vas-y, tant que... Ben, ok, c'est parce que tu as parlé des émotions après.
Ouais, vas-y, continue.
Quatrième raison pour laquelle on peut développer des troubles digestifs, je vais y aller avec mauvaises habitudes de vie. Puis en gros, quand je dis mauvaises habitudes de vie, bien évidemment, l'alcool, le tabac, on sait tous que ça l'aide clairement pas pour la digestion. Sinon, le manque de sommeil, et quand on parle de manque de sommeil, le point c'est que le manque de sommeil va dérégler deux hormones qu'on appelle la leptine et la ghréline, qui sont les hormones de la faim, de la satiété. Donc si ces hormones-là sont tout déréglées, il y a des grosses chances que tu manges un peu n'importe comment, puis que tu crées des problématiques digestives. Puis évidemment, ça peut dérégler également le rythme circadien. Et il y avait eu des études qui démontraient que le rythme circadien était directement relié avec la digestion. Donc selon le moment que tu digères, si tu manges toujours au même moment, tu vas digérer mieux que si tu manges de nuit, de jour, de soir, tout croche. Fait que le manque de sommeil peut clairement et l'autre, le manque d'exercice physique. Et on parle justement, je viens d'en parler, mais de gestion du stress. Parce que si tu t'entraînes, si tu fais de l'exercice, du sport, peu importe c'est quoi, ben tu vas aider mieux. En fait, c'est prouvé que c'est un des plus grands antidépresseurs naturels. Donc, ça va aider à réduire le stress. Et si tu es moins stressé, on vient d'en parler du stress, ça va aider au niveau de ta digestion. L'exercice physique va faire un autre concept qu'on appelle le péristaltisme intestinal, qui sont les contractions autonomes au niveau de notre intestin qui font descendre les selles. Donc, plus que tu fais d'exercice, plus que ça l'aide... <C'est-tu plate? rire> plus que tu fais d'exercice, plus, je... plus que ça l'aide au niveau du péristaltisme intestinal. Puis, le dernier point, le cinquième point avec ta bague dans tes points, c'est les médicaments. Et quand je dis les médicaments, c'est certains médicaments. Et j'en ai sorti quelques-uns. J'ai sorti les anti-inflammatoires, donc ibuprofène, aspirine, naproxène. Ça peut créer, je ne sais pas que ça va créer, et on n'est pas médecin, etc. Là, on s'entend. Mais ça peut créer des études qui démontrent ça, des ulcères gastriques et des brûlures d'estomac si jamais tu abuses vraiment beaucoup. Autre, les antibiotiques. On vient d'en parler. Mm. On parlait de l'intestin, la flore intestinale, le microbiote.
Ça affecte directement le profil enzymatique.
Exactement. Les médicaments comme les antibiotiques dérèglent directement la flore intestinale. En fait, ça tue les microbiotes. C'est littéralement
tout ce qui est vivant.
Donc, ça peut créer des diarrhées, des douleurs abdominales, etc. OK? Fait que ça, c'est mes 5 points. Vas-y, Jay, ça passe tellement vite.
L'autre point qui peut créer des problèmes digestifs que je vois régulièrement, puis tu sais, en général, je le vois dès la première rencontre avec un client. J'ai même pas besoin d'avoir adapté son mode de vie, que je sais déjà que la déshydratation va être un des facteurs du pourquoi. Parce que tantôt, tu en as parlé, le péristaltisme, la poussée en tant que telle intestinale. Ouais. De l'intestin de l'entrée à la sortie. Principalement, ça, c'est régulé par l'eau aussi. L'absorption de nutriments puis tout. Fait que, tu sais, le fait qu'une personne soit hydratée, en général, c'est pas compliqué. Nous autres, au niveau de l'inbody, on peut le voir comme ça, mais on s'est fait former de même à voir ces chiffres-là. Entre 50 et 65 % du poids du corps devrait être en eau. Ça veut dire que si une personne est hydratée à 50 %, elle est au seuil de la déshydratation. Et si elle est à 43, 42, 41, inévitablement, elle est en manque d'eau. Elle est déshydratée, puis son péristaltisme, les fonctions cognitives, le transport des nutriments, tout ne fonctionnera pas optimalement. Et on parle, admettons, un 65 % quand on prépare un athlète de très haut niveau comme un Ironman ou quoi que ce soit. Tantôt, j'ai un jeune qui est venu me voir. C'est un joueur de hockey. Il s'est fait recruter, je pense, en Ontario ou quoi de même. Puis vraiment, il est parti pour la carrière là, il y a 17 ans. Puis il a pris de la masse musculaire. Puis je regarde son niveau d'eau. Le jeune, il est super cognitif. J'ai jamais vu un jeune aussi sharp que ça. Puis vraiment, tu sais, belle masse musculaire. Il y a tout pour lui. Puis tantôt, on regardait. il n'y a aucun... Écoute, apprentissage, c'est impressionnant. 64 % d'hydratation. On parle d'un être humain qui est optimalement hydraté. Fait que ça, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, au niveau de la digestion, ça peut jouer un gros rôle au niveau du péristaltisme et de l'absorption de tout. Deuxièmement, les programmations. On en a parlé dans un dernier podcast, mais les programmations, la programmation neurolinguistique, la façon dont comment tu vas percevoir les choses est très important. Je vous raconte une petite histoire, mais j'ai une cliente qui ne voulait pas aller à la selle. Puis tu sais, c'est une cliente que j'avais comptée, je crois, dans un dernier podcast. Mais en fait, vous allez pouvoir aller dans un de nos premiers. Je pense que c'était dedans le deuxième ou troisième, en tout cas.
Je ne me souviens plus.
Mais dans le fond, la madame, c'est quoi? C'est que quand elle était jeune, la salle de bain dans sa maison, il y avait des frères et sœurs, il y avait sa mère, son père. Puis la salle de bain était dans la cuisine. Puis littéralement, dans la cuisine, à côté de la cuisine.
Puis, non, j'ai sur le comptoir de la salle de bain.
C'est ça, c'est pour ça qu'elle voulait pas y aller. Puis dans le fond, à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, sa mère et son père lui disaient « Ah, ça va encore puer. » Puis ses frères et sœurs l'écœuraient tout le temps. Fait qu'elle, elle a créé une programmation de « Si je m'en vais aux toilettes, je m'en vais me faire écœurer. » Fait qu'à chaque fois, elle a commencé à ne jamais aller aux toilettes quand que ses proches étaient là, quand que sa famille était là, quand que sa mère, son père ou son frère. Puis elle avait vraiment envie, mais elle n'y allait pas sur l'heure du dîner, déjeuner, souper. Fait qu'elle se restreignait. Puis un moment donné, le corps a créé un bouchon. Puis un moment donné, c'était rendu sa normalité d'être constipée. Puis elle pouvait se tenir pendant des jours et des jours. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que quand je l'ai rencontrée, elle a déjà vécu une constipation de plus de 40 jours. Fait que, tu sais, elle était incapable dès l'instant où elle sortait. Elle pouvait avoir la pire envie de caca. Elle sortait travailler, était incapable. Elle partait en voyage, elle passait 7 jours, c'était impératif, il n'y avait aucune chance qu'elle fasse caca si elle partait en voyage. Fait qu'elle, partir en voyage, était rendue un stress parce que c'était 7 jours sans aller aux toilettes. Fait qu'elle ne savait pas, là, mais elle se retenait. Ça, c'est de la programmation. Puis ça, c'est fou, mais elle a besoin d'hypnose ou elle a besoin de grosses techniques de reprogrammation pour aller déloger ça. L'âge. En tant que tel, c'est prouvé qu'une personne qui va vieillir à cause, veut pas, de l'usure du corps, mais aussi à cause de différents désordres, des hypersensibilités alimentaires, de l'accumulation de médication et aussi, comme tantôt tu parlais, de la médication que les personnes utilisent. Mais quand on parle d'accumulation de médication, c'est l'impact que la médication a pu avoir sur toi. Comme exemple, tu as fait 25 traitements d'antibiotiques dans toute ton existence, tu es rendu à 65 ans versus un jeune de 17 ans qui en a eu un. C'est pas tout le même profil. Fait que l'accumulation de médication et la médication que tu prends actuellement, en général, c'est les personnes âgées qui vont en prendre plus. Donc, on va se retrouver dans une situation où ça peut engendrer aussi des problèmes digestifs. Fait que l'âge est interrelié, pas physiologiquement, mais au niveau des habitudes et de l'hygiène. Les émotions, je te raconte une petite histoire avec une cliente que je trouvais super intéressante. Une de mes clientes, elle m'a donné 70, mettons mi-70, fait que peut-être 73, 74. Madame est super fine, poids santé, toute l'équipe, puis... elle vient me voir parce qu'elle a tout le temps des gros points dans le ventre, à l'estomac précisément. Fait que là, je me pose la question, je fais une structure alimentaire. Fait que là, j'essaye avec certains produits naturels, ça marche pas pantoute. Là, après ça, elle s'en va faire une coloscopie, elle s'en va faire une prise sanguine, ça marche pas pantoute. Fait que là, elle a encore des douleurs. Fait que là, un moment donné, je me dis, bon, OK, on embarque en PNL puis on jase. Fait que là, j'ai commencé à faire l'effet entonnoir. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces maux de ventre ont commencé à apparaître dès le décès de sa mère. Et qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, puis c'est là où je vais en venir avec les émotions, c'est qu'elle était très proche de sa matante, sa marraine, toute sa famille. Elle avait tout le temps des parties, des choses de même. Puis quand que sa mère est décédée, elle a hérité ou il y a eu quelque chose, un partage au travers de ça, et toute la famille a été ultra jaloux et ont commencé à la mettre dehors. Puis elle, après ça, sa meilleure amie qui était sa matante ou sa marraine, ou je me souviens plus quoi, est décédée. Fait que est décédée pendant qu'elle, elle y en voulait, puis pendant qu'il y avait comme, on va dire, tu sais, deux émotions très contraires, là. Fait qu'elle s'est faite rejeter de la famille, elle était très fâchée, elle s'était vraiment, tu sais, recroquevillée sur elle-même, et elle n'a pas pu aller s'excuser, il n'y a plus aucune possibilité qu'elle puisse sortir ça. Dès que j'y ai dit ça, elle a pleuré devant moi. Elle est allée déloger ça avec des psychologues. Elle est allée en parler, puis elle a parlé pendant plusieurs rencontres, et les douleurs se sont estompées à 100%. Puis je peux en parler de tonnes et des tonnes, là, si c'est pas des centaines, c'est pas loin d'une centaine, de causes d'effets, mettons, de douleurs intestinales, des migraines chroniques qui sont interreliées aussi. On parle de système digestif aujourd'hui, mais du système humain qui est dysfonctionnel à cause des émotions.
Ça
va directement avec. Je te laisse entamer l'autre sujet, Sam.
Ouais, ben en
on
fait.
Finalise là-dessus.
Ouais, ça passe tellement vite.
Ouais, ouais.
Dernier, je pense que ça fait un lien sur celui qu'on vient d'entamer, c'était qu'est-ce qui cause des troubles digestifs. Maintenant, on va embarquer dans 10 conseils pour justement aider cette digestion, qui sont des points qui vont revenir d'ailleurs.
mais qu'on va maintenant l'expliquer. Ouais. Dans le fond, je vais dire les cinq premiers. Donc, il n'y a pas d'ordre, OK, en passant, on a juste sorti 10 points, là, parce que s'il y avait un ordre d'affaires, ça ne serait peut-être pas 100% cet ordre-là.
Puis on en a encore une demi-heure.
Ouais, ben tu sais, dans le sens le plus important, le moins important, je pense ouais. qu'on a juste sorti des points, prenez-les pas en termes d'ordre d'importance. Fait que premier, des enzymes digestives. Jay, t'en as parlé pas mal tantôt. Tu parlais des enzymes qui te permettent d'assimiler avec le profil enzymatique. Les enzymes digestives, justement, on parle de la protéase, de l'alpha-amylase, de la lactase, qui est pour le lactose, la lipase pour les lipides, bon, etc. Et on peut parler aussi de bétaïne, la bétaïne qui augmente la production d'acide chlorhydrique. Ça peut être très, très bénéfique. Ils mettent souvent de la bétaïne dans les suppléments d'enzymes digestives. C'est peut-être pas la première chose que j'irais faire si tu te gères pas bien de dire je vais me chercher un supplément d'enzymes digestives. Il y a d'autres choses à regarder avant
Optimise
ça.
Optimise ton alimentation.
En fait, moi, je dirais il y a des choses à éliminer avant d'ajouter des choses. Ouais. Mais ça peut être très, très intéressant pour des personnes qui ont de la misère à digérer, que ça fait plusieurs fois qu'ils éliminent des choses. Puis là, comme ils sont rendus à un stade qui ont de la misère, les enzymes digestives, ça peut être super intéressant. Deuxième, en fait, j'en ai parlé tantôt, fait, je m'éterniserai pas là-dessus, mais l'exercice pour le péristaltisme bouger. Intestinal, le fait de bouger, ça active les contractions, comme je mentionnais tantôt. Troisième, augmenter, et ça, c'est super intéressant. J'ai fait d'ailleurs, pas mercredi là, ça passe tellement vite, l'autre mercredi d'avant, j'ai fait mon live, on fait des lives Facebook. J'ai fait le live sur l'importance des fibres alimentaires puis qu'est-ce que ça faisait. Et le troisième point est justement sur le fait d'augmenter l'apport en fibres alimentaires. Et techniquement, ils recommandent que tu devrais manger à peu près 15 grammes de fibres par 1000 calories. Donc, si quelqu'un mange à peu près 2000 calories, ben une trentaine de grammes de fibres, ça a de l'allure. Un homme, mettons, plus en, je sais pas, en prise de masse qui va chercher un 3000, 4000 calories, ben un 45 à 60 grammes serait beaucoup plus logique.
Un complément de fibres peut être pratique.
Ben en fait, un complément de fibres peut être pratique définitivement, mais en même temps, si tu manges énormément de fruits et de légumes, tu sais, les fibres, on va les retrouver dans les noix, les fruits, les légumes, les avocats, les graines de chia, tu retrouves ça dans plusieurs affaires. Fait que si tu manges déjà beaucoup de ça, je pense pas que ça soit nécessaire. Moi, j'ai jamais utilisé de supplément de fibres, puis je mange du 3000 calories tous les jours, puis je suis certain que si je faisais le calcul, j'en mange au-dessus de 40 grammes. Mais si jamais tu as de la misère, t'aimes pas les légumes, t'aimes pas les fruits, bon, etc., oui, ça pourrait être intéressant d'aller chercher un supplément de fibres, puis de gager à peu près ton 15 grammes par 1000 calories. Okay? Juste un petit warning, attention de ne pas en prendre trop, parce que si jamais tu prends trop de fibres, ça peut causer des ballonnements, des gaz, c'est très très logique. Les fibres vont rétentionner de l'eau au niveau intestinal et si tu as beaucoup d'eau, ça crée des ballonnements. Donc, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Trop, c'est pas mieux nécessairement que...
En fait, et ça peut faire l'effet contraire aussi parce que ça peut créer même de la constipation.
Ben, c'est justement que je m'enlignais. Si tu en prends trop, ça peut aussi te créer de la constipation.
Absolument.
Souvent, les gens qui ont de la constipation ont tendance, et je mettrais... Je fais des chiffres à peu près, mais 80%, mettons, vont pas avoir assez de fibres, mais dans quelques cas, donc exemple, on dit 20%, les personnes vont manquer, elles vont avoir trop de fibres. Fait que des fois, trop, c'est pas nécessairement mieux. Faites attention de ne pas en prendre trop. Essayez de vous gager dans à peu près le 15 grammes par 1000 calories. All right? Quatrième conseil pour une digestion, attention aux repas qui sont copieux. On en a parlé un petit peu tantôt. Et là, je vais faire
le
un
sumo.
Point. Le sumo, ouais, exactement, ça peut être cet exemple-là. Et justement, ben, en fait, c'est vraiment drôle, tu parles de sumo, je viens d'avoir un flash parce que c'est les Japonais. Et justement, je vais faire un exemple sur ça. Les Japonais ont un concept, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, qui s'appelle le ara-hashibu. OK? Puis, ara-hashibu.
OK, ça c'est mieux.
Et ce concept-là, c'est ce que ça veut dire en français, c'est d'arrêter à 80% de ta satiété. Donc, quand c'est dur à gager pile, là, mais mettons, tu manges, puis avant d'arriver au stade, ben, j'ai mal au ventre, j'ai plus faim, ça n'a pas de sens, t'arrêtes à 80% de ça. Et les Japonais, c'est un de leurs concepts, à part les sumo, clairement. et ça peut aider énormément.
À 180%.
Ouais, les autres, ils arrêtent plus que 100%. Mais arrêtez. Puis le pire, c'est pour vrai, testez-les, là, mais si vous mangez à votre faim et vous arrêtez 80% à partir de ce moment-là, vous allez tellement mieux digérer parce que votre profil enzymatique va être meilleur.
À mes clients, là, c'est con, mais la personne a de la misère à se reprogrammer. Un conseil que je vais donner souvent, c'est serre-toi la même assiette que ce que tu te servirais normal. Et ensuite de ça, va t'asseoir à la table, regarde ton assiette. C'est les 5 premières secondes. Après ça, relève-toi et va enlever 20% de ton assiette. Mais j'y dis, garde les mêmes habitudes, prends ton assiette habituelle et à chaque fois, assis-toi et t'es obligé d'enlever 20%. Automatiquement, c'est sûr qu'elle va perdre du poids.
Ouais,
bon conseil, ici,
ça l'aide, ça, c'est sûr. Puis ça va t'aider clairement au niveau digestif.
Absolument.
Dont le point justement de comment aider à avoir une bonne digestion.
Puis le but, c'est la prise de conscience. Fait que...
Ben en fait, le arabe archibu,
arabe archibu.
C'est justement, c'est une prise de conscience.
Exact.
Parce que c'est toi, là. T'sais, t'es personne d'autre qui sait que c'était rassasié à 80%. Par la suite, le dernier point, avant que Jay, tu nommes tes cinq derniers points, ne pas trop boire en mangeant. OK? Mais boire assez d'eau totale, dans le sens que c'est prouvé que si tu bois vraiment, vraiment beaucoup entre tes bouchées, ça va enlever la sécrétion, du moins ça va éliminer un peu les enzymes digestives que ta salive va sécréter. Mmh. Donc, tu vas digérer moins bien tes aliments. Mmh. Puis quand je dis de boire assez, dans le sens que tu ne veux pas boire trop en mangeant, OK, mais tu veux boire assez dans ta journée parce que toute l'assimilation des nutriments se fait dans l'eau. Absolument. Donc, évidemment, si tu bois pas assez, tu scrapes ton assimilation, mais si tu bois trop en mangeant, tu scrapes ta salive avec des enzymes digestives qui vont te permettre de t'aider à digérer ton repas. Mm. OK? Dieu, je te laisse passer sur tes 5 points. Fait. Puis juste en finissant tantôt, juste dire une phrase, il y a quelque chose d'important.
Parfait. Fait que tu sais, tu viens de le dire littéralement, si tu bois de l'eau, ça va t'éviter de mélanger en tant que tel la nourriture que tu viens de consommer avec ton profil enzymatique qui commence dans la bouche.
Exact.
Fait que la salive va moins être en contact. Fait que le point que moi je veux dire, c'est prenez le temps de bien mastiquer et de manger tranquillement. Puis oh, combien de fois qu'on l'a entendu ça? Prends le temps de mastiquer, puis le quitte. On le sait, on veut manger rapidement, c'est bon ce qu'on mange, puis on veut dégommer ça vite. Mais ça reste quand même que la vraie logique, c'est de mastiquer, écoute, c'est fou, entre 30 et 40 fois chaque affaire que tu manges. Fait que tu sais, quand t'es rendu à mastiquer 40 fois, c'est 40 secondes, là, veux pas. Fait que prenez juste au moins 50% plus de temps pour mastiquer, puis ça se peut que vous ayez moins de problèmes digestifs. Deuxième point, manger en pleine conscience. C'est fou, mais la quantité de nourriture que vous pouvez manger parce que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de manger, du genre le fameux bol de chips devant, mettons, la TV, souvent, on aurait envie d'en faire moins que ça. On aurait envie d'en manger moins. On serait capable de s'arrêter si on est en pleine conscience puis qu'on est assis à une table en train de manger le bol de chips. Mais parce qu'on est devant la télévision, parce qu'on est devant l'ordinateur ou parce qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on fait, l'effet de manger, ben on va en manger trop. Fait que, tu sais, ça, on s'en rend pas compte, mais combien de personnes aussi ont tout le temps trop faim devant la télévision? C'est dans un moment où t'as absolument rien.
C'est dans ces moments-là, pourquoi que je dis à mes clients de... Correct. Mm. Pourquoi je dis à mes clients de calculer sur une balance? C'est que si tu calcules sur une balance, qu'est-ce que tu manges? Tu n'auras jamais trop. Là.
Absolument. Fait que manger en pleine conscience, prenez la peine de manger. Dans un des derniers podcasts, j'avais fait l'importance, surtout pour les enfants, de manger en famille à la table. Fait que les déjeuners, dîners, soupers, ça devrait être le plus possible à la table. Mm. Et essayez d'éviter de manger dans votre voiture pendant que vous conduisez. Vous n'êtes pas dans le conscient. Essayez d'éviter de manger devant la télévision puis tout. C'est des conseils que tout le monde sait, tout le monde a déjà entendu, mais très peu font. Mm. Autre point, attention aux produits transformés. Il existe des grandes catégories de nourriture, mais il y a des non transformés. Je donne un exemple. Une tomate. Tu cueilles la tomate, c'est une tomate. Fait que, ingrédient, tomate. Après ça, cette tomate-là, tu vas la transformer en ingrédient semi-transformé. Ça va devenir une sauce tomate. Fait que, tomate avec des épices, avec du sel, avec telle affaire. Après ça, tu vas reprendre la sauce tomate, tu vas la transformer complètement. Fait que là, elle n'est plus semi, elle passe à transformer. Ça devient du ketchup. Elle est mélangée avec du sucre, des agents de conservation, du colorant, des choses de même. Fait que 15 ingrédients. Et ensuite de ça, tu vas ultra transformer ça puis tu vas faire une canne de sauce chef Boyardee. Fait que ta tomate et la sauce chef Boyardee, il y a 40 ingrédients qui les séparent. Au final, la sauce chef Boyardee a peut-être 15% de tomate à l'intérieur, puis ta tomate, c'est 100% de tomate. Fait que tout ça pour dire que les aliments que vous consommez ont toute une différence parce que si tu arrives pour consommer une canne de thon ou une barre protéinée avec 45 ingrédients à l'intérieur, la canne de thon va toujours être plus facile à reconnaître. Il y a un ingrédient, ton corps, c'est pas casse-tête pour lui. Mais si tu arrives pour manger ta barre de protéines, il doit comprendre c'est quoi du sucralose, il doit comprendre c'est quoi ton faux caramel, il doit décortiquer tous tes produits chimiques là à l'intérieur et ensuite de ça, décortiquer trois sources de protéines et telle affaire. C'est tellement plus complexe pour ton corps, fait que ça se peut qu'il y ait des molécules qu'il ne soit pas capable de reconnaître et tu as bien plus de chances d'avoir une problématique enzymatique lorsque tu manges des 40 ingrédients à un seul repas. Quatrième point, la gestion du stress, c'est très simple. Fais juste littéralement avoir un grizzly en face de toi après avoir mangé un steak, puis je te le garantis que tu ne seras pas en bonne digestion. Exact. Fait que tu sais, ton but est de vivre le moins de stress possible, tu vas très bien digérer, mais un corps qui est stressé, sa priorité, c'est pas du tout digérer. Fait que quand tu as un grizzly, ça m'étonnerait que ton burger ou ton steak digère bien.
D'ailleurs, une des belles façons, c'est après avoir mangé, d'aller prendre une marche.
Absolument.
Super bénéfique pour la digestion.
Absolument. Et la dernière affaire, puis ça, c'est c'est une application que je recommande beaucoup à mes clients, à tous ceux qui écoutent le podcast, Yuka, Yuka. C'est une application qui permet de scanner chaque aliment que vous mangez. Vous faites juste scanner le code barre et ça va vous sortir, dans le fond, un système de Metascore par rapport aux aliments. Ça va vous dire si c'est un aliment transformé, ultra transformé ou naturel. Et le Metascore se passe de 0 à 100. 100, on peut considérer que c'est un très, très bon aliment. En haut de 60, en général, je recommande tout le temps ça à mes clients. Et tout ce qui est en bas de 60, je leur dis d'essayer d'éviter le plus possible de toucher à ça. Et Yuka vous permet aussi de savoir tous les produits chimiques. C'est très facile, c'est un clic. Il vous permet de savoir tous les produits chimiques à l'intérieur d'un aliment et qu'est-ce qu'ils font sur votre corps. Fait que la dernière fois, j'ai scanné un pain de blé entier wrap. C'était con, mais de marque IGA. Je scanne ça, 13 produits chimiques. OK? Puis quand on parle de produits chimiques, là, c'est des produits chimiques, là, des cancérigènes, des affaires qui sont étudiées par l'Inserm pour se faire retirer dans les prochaines années. C'est de la tartrazine, c'est ci, c'est ça. Là, tu regardes la quantité de produits chimiques qui est à l'intérieur de ça. Tu peux bien pas filer, tu peux bien avoir mal à la tête, tu peux bien avoir des troubles digestifs, tu peux bien pas avoir de libido. Tu sais, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur d'un pain wrap blé entier, mais si tu donnes ça à ton enfant à chaque jour, c'est fou. Mm. Fait que Yuka, c'est une application, YUKA, c'est une grosse carotte sur le logo, mais c'est une application qui te permet de prendre conscience des aliments que tu manges et d'être capable de faire des choix plus judicieux. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais, gars.
Juste fais une chose comme phrase. Ben, en fait, c'est pas une phrase, c'est qu'un enfant, je pense, c'est important parce que si on parle. Je voulais le dire parce que, tu sais, on parle de sucralose, on parle de yucca, on parle de tartrazine, on parle de plein d'aliments qui sont transformés. Tu sais, faites juste de savoir, oui, effectivement, on veut éliminer ces aliments-là au maximum parce que c'est des aliments qui ne sont pas nécessairement naturels. La seule affaire, c'est que notre corps est capable d'en prendre jusqu'à un certain point. Fait que le point que je veux apporter, c'est de dire, focus sur les choses qui sont importantes. Et quand on dit ça, c'est de dire, mangez le plus possible d'aliments qui sont naturels. Puis si une fois de temps en temps, vous avez une petite tarte au sucre, vous avez une petite affaire, c'est correct, faut pas virer fou. On trouve un équilibre là-dessus. Absolument. Et tantôt, j'écoutais quelque chose que je trouvais bon, c'est qu'il disait, si à chaque semaine, toi, il te faut ton burger frites à toutes les semaines, mais si tu me dis que le fait de manger ton burger frites, ça fait en sorte que tu es capable de suivre ta stratégie à la lettre puis d'adhérer, prends ton burger frites, tu comprends? Mm. Fait que trouve un espèce d'équilibre, focus sur les choses primordiales et non nécessairement la chose qui va faire. Parce qu'une chose, ça ne changera rien, c'est quand tu as une accumulation de ces choses-là qu'au bout de la ligne, ça va devenir problématique au niveau de ton corps.
Absolument.
Merci de votre écoute, gang. Puis comme tu avais mentionné dans un autre podcast très important, prenez le temps, s'il vous plaît, c'est notre plus belle paye. Allez laisser un beau 5 étoiles si vous avez apprécié, si vous voulez laisser des commentaires. Le podcast va être sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast, va être à plein d'endroits. Donc, le plus possible, s'il vous plaît, si vous avez apprécié, faites-nous le plus beau cadeau. Allez laisser un beau 5 étoiles puis recommandez-nous. C'est la meilleure façon de propulser notre podcast, notre entreprise.
Merci, gang.
Merci, gang.